Vous écoutez, on lit pour vous.
Abaisser l'alcoolémie permise au volant pour sauver des vies. Un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallette, paru le 26 décembre 2024 dans Le Devoir. Nous sommes deux journalistes d'enquête avec une étrange passion commune, la lecture de rapports du coroner. On s'est senti interpellé quand, en juillet 2024, pour la troisième fois en une année, un coroner a recommandé à la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, et au ministère des Transports d'abaisser l'alcoolémie permise au volant à de 0,08 à 0,05 mg par 100 ml de sang pour sauver des vies. On souhaitait tester nos capacités face à l'alcool et se mettre dans la peau d'un conducteur dont l'alcoolémie est juste en dessous de la limite permise, puis bien au-delà de celle-ci. Tous les experts s'entendent pour dire qu'à partir de 0,04 mg par 100 ml d'alcool dans le sang, les conducteurs ont 4,5 fois plus de risque d'avoir un accident de la route. D'ailleurs, partout au Canada, des sanctions administratives sont données à partir de 0,05, soit la suspension de permis, la saisie du véhicule et une amende élevée. Puisque nous n'avons pas réussi à convaincre nos patrons de nous laisser boire quelques mojitos durant nos heures de travail pour les besoins de l'enquête, nous nous sommes rendus à Longueuil pour tester notamment des lunettes qui permettent de stimuler les effets de l'alcool. Au grand malheur d'Amélie, qui a joué les cobayes, mais au grand bonheur de Stéphanie, qui a filmé l'épreuve. L'expérience se déroule dans le stationnement du Centre de formation des policiers du service de police de l'agglomération de Longueuil, SPAL, sous la supervision de l'agent évaluateur de sécurité routière, Sylvain Forgue. L'agent Forgue énumère les mêmes directives que celles qui sont données aux conducteurs qu'on soupçonne d'avoir pris le volant avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue. L'épreuve du « marcher et se retourner » permet aux policiers d'analyser notre démarche. À peine enfilées, les lunettes qui simulent une alcoolémie à 0,06 mg font leur effet. « Hey boy, ça commence bien !» lance Amélie, qui titube vers l'arrière, visiblement déstabilisée. Amélie est fin prête pour commencer le fameux test de coordination. Le policier Forgue lui demande de marcher sur une ligne droite, en comptant à haute voix. Après plusieurs secondes à tenter de trouver son équilibre, elle réussit à mettre un pied devant l'autre, avec une démarche chancelante. Trop concentrée sur les mouvements de ses pieds, Amélie a complètement oublié de compter à voix haute. Même si elle n'est qu'à 0,06 mg par 100 ml, soit 0,02 mg sous la limite permise, ses capacités semblent déjà affaiblies. Il lui serait impossible de prendre le volant de façon sécuritaire dans cet état. « Je suis à côté de toi s'il arrive de quoi ?» dit le policier. « Ce n'est que la vision qui est altérée. On ne parle même pas du jugement ni de la motricité », nous rappelle l'agent Forgue. Deuxième essai. Cette fois avec des lunettes qui simulent une alcoolémie à 0,1 mg par 100 ml. De peine et de misère, Amélie enchaîne les pas, mais ne semble pas réussir à trouver un point d'équilibre. Le dernier essai se fait avec des lunettes qui simulent une alcoolémie de deux fois la limite permise, soit à 1,6 mg. Impossible, lance Amélie, dont presque tous les pas se font complètement à l'extérieur de la ligne droite devant elle. Les limites de la balloune. Après cette expérience, on a décidé d'aller voir sur le terrain si les Québécois avaient tendance à prendre le volant après quelques verres. Le SPAL a accepté notre demande. Il est 22h30, un jeudi soir de septembre, lorsqu'une équipe de 17 policiers installe un contrôle routier à la sortie du pont Victoria, à Saint-Lambert. Près de 250 véhicules seront arrêtés cette nuit-là. Ce sera l'occasion pour les agents de faire souffler les automobilistes dont l'appareil de détection approuvé, la fameuse balloune, une douzaine de conducteurs ayant pris un verre. Vous n'avez pas dépassé la limite, mais je vois clairement que votre capacité de conduire est affaiblie. Vous avez les yeux vitreux et, quand je vous ai demandé votre permis, vous m'avez donné votre carte d'assurance maladie, explique un patrouilleur à un homme qui vient de souffler à 0,04 mg par 100 ml d'alcool dans le sang. « Je me trompe souvent », réplique le conducteur, visiblement pressé de partir. Le policier tente de sensibiliser l'automobiliste au risque qu'il court même s'il n'enfreint pas la loi. « Peut-être que dans 10 minutes, vous allez être rendu à 0,07 mg. » Selon les personnes, on peut être affecté différemment. Êtes-vous correct pour conduire? Parce qu'on peut vous appeler un taxi, lui dit-il. Je suis correct, affirme le conducteur avant de remonter dans son véhicule. On constate que dans les faits au Québec, seules les personnes au-dessus de 0,1 mg par 100 ml sont considérées comme étant en état d'ébriété lors d'un contrôle routier. En effet, l'appareil est calibré en prenant en considération une marge d'erreur. Ainsi, une personne qui souffle avec un résultat de moins de 0,099 mg d'alcool dans 100 ml de sang peut donc reprendre le volant. Une réalité qui nous frappe puisque déjà, avec des lunettes simulant 0,06 mg, Amélie n'était assurément pas en mesure de conduire. Vous écoutez « Abaisser l'alcoolémie permise au volant pour sauver des vies », un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallet paru le 26 décembre 2024 dans Le Devoir. Sauver des vies. Le débat sur l'adoption d'une mesure administrative à partir de 0,05 ne date pas d'hier. Au fil des années, divers acteurs se sont prononcés en faveur de cette dernière, dont la Table québécoise de la sécurité routière, qui rassemblait 50 acteurs provenant de ministères et de plusieurs organismes sous l'égide de la SAC. L'Institut national de santé publique recommande la mise en place d'une mesure administrative à 0,05 mg, tout comme l'Association pour la santé publique du Québec, sans compter le bureau du coroner qui l'a recommandé à de nombreuses reprises. En mars 2024, le député libéral Moncef Déragie a déposé un projet de loi sur l'alcool au volant et l'instauration de sanctions administratives. Le projet de loi a été appuyé par le Parti québécois et Québec solidaire, mais a été rejeté par les élus de la coalition Avenir Québec lors du vote. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'aller de l'avant dans le dossier du 0,05 mg? Le manque de popularité d'une telle mesure? La pression des divers acteurs de l'industrie de l'alcool? Le fait que le projet de loi sur le 0,05 mg ait été présenté par un parti d'opposition? La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a refusé de nous accorder une entrevue dans le cadre de notre enquête. On espérait pouvoir lui parler afin de mieux comprendre sur quels éléments scientifiques elle s'était basée pour prendre la décision de rejeter l'abaissement de l'alcoolémie. On a fait des demandes d'accès à l'information pour obtenir tous les documents et les échanges en lien avec ce dossier auprès de divers ministères. Une démarche qui n'a pas porté ses fruits. Grâce à une source, on a obtenu la conclusion non caviardée d'une analyse produite par la SAC à la suite de la recommandation du coroner. Conclusion : la SAC confirme que l'abaissement de l'alcoolémie est une mesure porteuse qui permettrait de faire changer les choses en ce qui concerne le nombre d'accidents. Cela étant dit, il s'agit d'une prérogative qui appartient au gouvernement, lit-on dans une lettre signée par Éric Ducharme, président-directeur général de la SAC, et adressée au coroner en chef, Renaud Bernier. Toutefois, une demande d'accès du député Deradji vient bousculer les choses. Le document est lourdement caviardé, mais à partir de ce moment-là, tous les médias sont au courant de son existence et vont chercher à l'obtenir. Le sentiment d'urgence embarque. La rédaction de notre enquête avance bien, mais il nous reste tout de même certains morceaux à bien ficeler. À partir de là, on se réveille chaque matin à 5h30 pour vérifier les unes des journaux jusqu'au jour de la publication de notre enquête qui a eu d'importants retentissements médiatiques, mais aussi à l'Assemblée nationale où le sujet est resté plusieurs jours au cœur des débats. C'était « Abaisser l'alcoolémie permise au volant pour sauver des vies », un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallet, paru le 26 décembre 2024 dans Le Devoir.
Convertir la pollution en carburant vert, un texte de Raphaël de Rome, paru le 9 janvier 2025 dans Québec Science. Un catalyseur permet de transformer deux importants gaz à effet de serre en ingrédients utiles pour l'industrie. De grandes bouteilles de gaz, de petits flacons de verre, toutes sortes de poudres et une lampe. C'est l'essentiel de l'équipement avec lequel ont travaillé Jing Tan Han et Hui Su. Respectivement doctorant et post-doctorante au laboratoire de Chao Yung Li, professeur spécialisé en chimie verte à l'Université McGill, ils avaient pour mission de convertir le méthane et le dioxyde de carbone, deux gaz à effet de serre, en produits à haute valeur commerciale. Il existait déjà des procédés industriels pour transformer ces gaz, explique le professeur. Mais ils ne fonctionnent qu'à haute température ou génèrent des composés de faible valeur. Plutôt que de s'attaquer aux deux polluants séparément, l'équipe a tenté de les combiner en une seule étape. Des recherches précédentes avaient montré que certains catalyseurs pouvaient, en présence de lumière, briser les molécules de méthane, CH4, et de dioxyde de carbone, CO2, pour permettre à leurs atomes de se recombiner autrement. Pendant des mois, les deux chimistes ont testé des dizaines de photocatalyseurs différents. Le duo en déposait quelques milligrammes dans un tout petit flacon de verre, le scellait de manière hermétique, injectait du méthane et du dioxyde de carbone, exposait le tout à la lumière pour déclencher la réaction chimique, puis analysait les produits obtenus. C'est finalement un mélange à base d'or, de palladium et de nitrure de gallium qui a permis de crier victoire. Il ne fait pas partie des produits réactifs ou molécules réactives, mais il facilite la réaction en offrant une surface activatrice à laquelle se fixent les molécules des deux gaz. L'exposition à la lumière arrache un atome d'oxygène à la molécule de CO2. Cet atome se greffe à la molécule de méthane, CH4. Se forme ainsi du méthanol, CH3OH, et du monoxyde de carbone, CO, deux intrants très utilisés dans l'industrie chimique. Tout cela à température et à pression ambiante, et sans générer de sous-produits indésirables. Les détails ont été publiés en juillet 2024 dans Nature Communications. Pour le moment, la réaction a été testée à petite échelle. Compte tenu du coût élevé des métaux catalyseurs, sera-t-elle rentable? Chao Yung Li se fait rassurant. Une petite quantité de catalyseur suffit et peut être utilisée maintes et maintes fois. même après 100 heures de tests, nous n'avons constaté aucune diminution significative dans l'activité du catalyseur, confirme Jing Tan Han. Une entreprise fondée par Zhao Yongli, Cataloum, s'occupera d'amener le processus à une échelle commerciale. Même si l'équipe a utilisé des gaz purifiés pour mener ses tests, la méthode devrait fonctionner aussi sur des mélanges de gaz, par exemple, ceux qui sont générés dans l'industrie du pétrole ou ceux qui s'échappent des sites d'enfouissement. Enfin, on pourrait à terme utiliser le soleil plutôt qu'une lampe comme source lumineuse. C'était « Convertir la pollution en carburant vert », un texte de Raphaël de Rome, paru le 9 janvier 2025 dans Québec Science.
Un colorant alimentaire banni aux États-Unis mais permis au Canada. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 janvier 2025 dans La Presse. Les autorités américaines ont interdit dernièrement un colorant alimentaire artificiel. Mais le rouge numéro 3, aussi connu sous le nom d'érythrosine, demeure légal au Canada. Pourquoi? Pourquoi les États-Unis ont-ils interdit l'érythrosine? Professeur à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, INAF, de l'Université Laval, Sylvie Turgeon a passé la soirée de mercredi à éplucher le dossier de l'érythrosine. En entrevue, elle indique qu'une ONG américaine a invoqué une clause d'une loi de 1958 pour rappeler à la Food and Drug Administration, FDA, l'agence chargée de surveiller les aliments et médicaments, qu'une substance qui cause le cancer chez les animaux ne pouvait être utilisée dans la nourriture humaine. « J'ignorais l'existence de cette clause dès l'année, avoue Mme Turgeon. Il y a une étude qui montre que l'érythrosine cause chez le rat un cancer du système endocrinien avec un mécanisme qu'on ne retrouve pas chez l'humain. C'est la source qui a allumé la mèche. Des organisations de consommateurs ont convaincu la Californie d'interdire ce colorant dans les bonbons et les produits pour enfants. L'Association américaine des fabricants de bonbons a indiqué à CNN qu'elle avait demandé à la FDA de statuer sur l'érythrosine en raison de l'interdiction californienne envisagée par plusieurs autres États. Selon une étude publiée en 2020 dans la revue Regulatory Toxicology and Pharmacology, la clause d'Delaney était, jusque dans les années 1980, tempérée par une interprétation liée au risque pour la santé humaine. Des poursuites de groupes environnementaux avaient ensuite étendu son application à certains pesticides, puis, depuis 2018, à des additifs alimentaires. Est-ce que l'érythrosine est interdite au Canada? Non, mais sa concentration maximale dans chaque aliment est limitée. On ne veut pas qu'une personne en consomme trop, explique Mme Turgeon. La même approche vaut pour l'Union européenne, où l'érythrosine est seulement approuvée pour les cerises confites. La dose maximale sécuritaire est tout d'abord calculée, puis divisée par 100 par précaution, explique Mme Turgeon. Ensuite, on détermine combien d'érythrosine une personne normale consommerait avec une alimentation typique. Encore là, un facteur de sécurité est introduit. Par exemple, pour l'aspartame, il faudrait qu'une personne boive 20 canettes de boissons gazeuses diète par jour pour dépasser la dose maximale sécuritaire, illustre Mme Turgeon. Pourquoi l'Europe n'accepte-t-elle l'érythrosine que pour les cerises? Chaque population a des habitudes alimentaires différentes, répond Mme Turgeon. Dans quels aliments l'érythrosine est-elle utilisée? Santé Canada l'autorise pour des confitures, des bonbons, des jus, des crèmes glacées, des laits aromatisés, des glaçages à gâteaux,
des marinades comme le ketchup et des produits de fruits de mer comme les crevettes, les anchois et le homard. L'érythrosine est aussi utilisée dans des sirops anti-toux. L'ONG américaine Environmental Working Group a calculé en 2022 que l'érythrosine était utilisée dans 2876 produits alimentaires aux États-Unis, dont le quart des glaçages à gâteaux et entre 10 et 15% des bonbons et biscuits. L'érythrosine a été inventée en 1907. Elle est dérivée du pétrole. L'érythrosine pose-t-elle des risques pour la santé? La FDA cite deux études sur des rats exposés à de hauts niveaux de rouge numéro 3 ayant causé des cancers en raison de mécanismes hormonaux spécifiques aux rats. Des études chez d'autres animaux ne montrent pas cet effet, ajoute l'agence américaine. Les affirmations indiquant que le rouge numéro 3 dans la nourriture et les médicaments mettent la santé des gens en danger ne sont pas appuyées par des informations scientifiques disponibles, conclut la FDA. Santé Canada renchérit qu'un comité sur les additifs alimentaires de l'ONU a réévalué en 2018 l'érythrosine et a conclu qu'elle ne présentait pas de danger. La FDA a donné à l'industrie alimentaire jusqu'en 2027 pour éliminer l'érythrosine, signale Mme Turgeon. Ça montre bien que ce n'est pas urgent. Quand elle a interdit l'érythrosine en 2023, la Californie a toutefois cité des études montrant que ce colorant affectait potentiellement le comportement des enfants. Par quoi peut-elle être remplacée? Des colorants rouges naturels, issus des betteraves et des choux rouges, ont remplacé les colorants artificiels depuis une décennie, indique Mme Turgeon. Il y a eu des études liant les colorants avec l'hyperactivité chez les enfants. Ça a incité certaines compagnies à passer à des colorants naturels parce qu'il y avait des inquiétudes chez les consommateurs. Selon elle, les Smarties sont l'exemple par excellence. Ces friandises, qui sont maintenant fabriquées avec des colorants naturels, demeurent populaires. Les colorants artificiels sont plus stables et ont des couleurs plus vives, mais si les consommateurs ne voient pas de problème à consommer des produits avec des couleurs moins vives, les fabricants vont répondre à leurs attentes. En savoir plus. 100 tonnes, quantité d'érythrosine utilisée aux États-Unis en 2022. Source CPSI. C'était un colorant alimentaire banni aux États-Unis mais permis au Canada, un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 janvier 2025 dans La Presse.
Vous n'aurez pas le temps de dire cheese. Un texte de Maxime Bilodeau, paru le 9 janvier 2025 dans Québec Science. Une équipe internationale a mis au point la caméra la plus rapide du monde, un outil formidable pour mieux comprendre l'interaction entre la lumière et la matière. Sur la table, le dispositif s'apparente à un parcours d'obstacles destiné non pas à des ninjas, mais à la lumière. Il s'agit d'un nouveau système de caméra ultra-rapide qui peut capter, avec une précision étonnante, jusqu'à 156,3 milliers de milliards d'images par seconde. La femtophotographie, en temps réel, à ouverture codée et balayée, ou SCARF, selon l'acronyme anglais. Par comparaison, un téléphone en mode ralenti capte tout au plus une centaine d'images par seconde. Un exploit technique qui ouvre la porte à l'étude de phénomènes se déroulant à l'échelle moléculaire, jusqu'alors insaisissables, parce qu'ils se déroulent trop vite ou qu'ils ne se produisent pas à répétition. On peut penser à certaines réactions chimiques entre des protéines, illustre Jinyang Liang, professeur au Centre Énergie, Matériaux et Télécommunications de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Il est le meneur de l'équipe de recherche à l'origine de cette découverte, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Communications en février 2024. Classiquement, réaliser un film consiste à capturer des séries d'images, puis à les mettre bout à bout pour reconstituer un mouvement. Plus le mouvement qu'on désire capturer est rapide, plus le nombre d'images doit être élevé. Ce principe peut être poussé à une grande vitesse. La photographie ultra-rapide, compressée, par exemple, est une approche qui consiste à synchroniser la capture d'images avec les pulsations d'un laser qui agit comme une source de lumière. Cette technologie sur laquelle a travaillé l'équipe du professeur Liang dans les dernières années dépend cependant des performances des systèmes laser. Même les lasers les plus sophistiqués au monde sont incapables d'émettre des pulsations suffisamment courtes pour espérer capter 156 300 milliards d'images par seconde. Pour aller aussi vite, il a fallu sortir des sentiers battus. Les chercheurs et chercheuses ont utilisé une approche détournée, décomposé le faisceau laser pour travailler avec ses différentes composantes. Le tour de passe-passe se produit peu après qu'une impulsion ultra-courte a frappé la scène. La lumière traverse alors un réseau de loupes, de miroirs et de dispositifs optiques, le parcours d'obstacles, qui induit délibérément un très léger décalage temporel entre les différentes longueurs d'onde parvenant au capteur photographique. Sur la vidéo subséquente générée par ordinateur, ce sont donc les différences minuscules survenant d'un spectre lumineux à l'autre qui sont reconstituées. Pharmacologie, science des matériaux, physique des particules, les domaines où la SCARF pourrait permettre d'observer des phénomènes d'intérêt sont nombreux. Une version commercialisable de cette technologie brevetée est justement en cours de développement en collaboration avec les entreprises québécoises Axis Photonique et FuCycle. Notre prochaine étape, filmer ce qui se passe à l'échelle de l'attoseconde, révèle pour sa part Jinyang Liang. Il s'agit d'un milliardième de seconde. Juste ça. C'était « Vous n'aurez pas le temps de dire cheese », un texte de Maxime Bilodeau, paru le 9 janvier 2025 dans Québec Science.